Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, on s'envole dans l'espace, les grands espaces, à l'époque de la guerre froide, pour une bataille d'un genre particulier, la propagande dans la conquête spatiale.
Au cœur de l'histoire.
C'était pendant que vous dormiez, une prouesse mondiale a eu lieu et on la doit à des Chinois. Ils ont fait atterrir sur la Lune un petit robot, mais pas n'importe où.
En posant le 3 janvier 2019 un module sur la face cachée de la Lune, la Chine a fait un pas en avant formidable dans la conquête spatiale. Cette information a fait le tour du monde. Elle est à la fois une prouesse technique, mais surtout la démonstration que fait ce pays que désormais elle veut compter dans les développements technologiques futurs. D'un coup, le leadership américain dans l'espace semble menacé. D'un coup, la concurrence est ouverte. D'un coup, on se retrouve à nouveau avec une guerre d'image et une bataille technique. Eh bien, on va revenir à la première course spatiale, celle entre les États-Unis et l'URSS. C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide. Pour démarrer cette histoire, il faut repartir en mai 1945, au moment où s'achève la Seconde Guerre mondiale. Dans cette Allemagne dévastée par les bombardements, celle que l'on qualifie souvent d'année zéro, il existe une véritable course entre services secrets américains et services secrets soviétiques. L'objectif est de récupérer le maximum de savants, de ceux qui seront capables de penser et de construire les armes du futur. Une arme en particulier retient l'attention des deux camps, le V2 que les nazis ont utilisé pour bombarder à distance Londres. Ils ont déjà en tête, tous, que les missiles seront peut-être l'arme de demain. Un personnage a joué un rôle dans cette aventure. Il s'appelle Werner von Braun. Il a été ingénieur à la base de Peenemünde, celle où précisément étaient construits les V2. Von Braun est un passionné d'aéronautique, assez bon en mathématiques. Il a commencé à travailler dans la balistique pour les armements dès la République de Weimar et il a poursuivi sa carrière sous les nazis. Il est même entré dans la SS, où il a atteint le grade de SS-Sturmbannführer, c'est-à-dire de commandant. Von Braun a donc été responsable d'une équipe de recherche directement sous le commandement du chef de la SS, Heinrich Himmler. C'était à eux de développer cette arme secrète dont Hitler espérait obtenir la victoire. Ce que les soviétiques ne savent pas, c'est qu'en fait, avant la fin de la guerre, Von Braun a déserté. Il est allé se réfugier en Bavière et c'est là qu'avec l'aide de son frère, il a pu entrer en contact avec les Américains et accepter de travailler pour eux. Son ralliement ne passe pas inaperçu puisque les Américains vont lui demander de justifier son choix dans un film à des fins de propagande.
Moi-même et tous les gens que vous voyez ici, nous avons choisi de rejoindre l'Ouest. Notre décision n'a pas été une décision de circonstance, mais une décision morale. Nous savions que nous avions créé de nouvelles armes de guerre, et la question était, à laquelle des nations victorieuses pouvions-nous faire confiance? Et il nous a semblé que remettre de telles armes entre les mains d'un peuple guidé par la Bible serait le meilleur moyen de garantir la sécurité du monde.
Donner son arme, donc, à une nation guidée par la Bible. Von Braun, avec une centaine d'autres ingénieurs, part donc pour les États-Unis. Il va poursuivre en réalité le combat qu'il avait mené dans les années 30 contre le communisme au service du nouveau maître qu'il a choisi, les États-Unis. Changement de décor. Il y a quelque part, au loin, dans la lointaine Sibérie, un homme qui, en cette année 1945, redécouvre à petits pas la liberté. Cet homme s'appelle Sergueï Korolev. Il a été prisonnier dans les goulags, ce qu'on appelle un zec. Il a pourtant réussi à en réchapper. Il a fait partie de ces purges staliniennes. Il avait été envoyé au bagne de la Kolyma. C'est un mathématicien. Il est de langue russe. Il s'est un peu formé tout seul et il va être l'un des pionniers de l'aéronautique soviétique. Mais s'il a un retour en grâce en 1945 auprès du pouvoir stalinien, c'est pour une raison simple. c'est que cet autodidacte précisément a travaillé comme ingénieur dans un centre de développement des avions et des fusées soviétiques. Et que désormais, dans la nouvelle guerre qui s'annonce, guerre technique, guerre technologique, guerre d'intelligence, il faut trouver toutes les ressources pour gagner. Korolev d'un côté, Wernher von Braun de l'autre, vont être les acteurs majeurs de cette course spatiale qui, en réalité, est une course aux armements. Car sur Terre, la question de la guerre s'est totalement métamorphosée avec le bombardement d'Hiroshima. Désormais, il faut réussir à foudroyer d'un coup son ennemi sans prévenir. L'espace pourrait être la solution. Chacun des deux camps va s'organiser, va travailler dans le secret. Il faut imaginer aussi les équipes d'espions qui, d'un camp à l'autre, essayent de donner des informations sur l'état réel d'avancement des différents protagonistes. Mais tout cela reste relativement bien gardé. 4 octobre 1957, dans le Kazakhstan, cosmodrome de Baïkonour. Une fusée avec 28 R s'allume, lâche toute sa puissance et propulse dans l'espace, en orbite autour de la Terre, un petit satellite, une boule de fer de 83 kg, équipée d'antennes qui diffuse un petit son, un petit bip-bip qui fait le tour du monde et dont l'écho sera capté aussi bien par les antennes officielles que par celles des radios amateurs. Pour la première fois, les Soviétiques ont réussi à envoyer dans l'espace un nouvel objet. C'est une première mondiale absolue. La nouvelle fait le tour de la planète et évidemment, elle est commentée à Paris et écoutée comment, à l'époque, un micro-trottoir montrait étonnement et scepticisme.
Les Russes ont envoyé un satellite de 4 tonnes 500 dans l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peur?
Ah non, parce qu'on n'a rien vu.
Bon, moi, je crois que c'est une vaste rigolade.
Vous avez peur à l'idée que ces satellites tournent autour de la Terre?
Mais pas du tout, pas du tout. Ça me laisse un peu indifférent.
C'est merveilleux pour l'instant, mais plus tard.
Quel sentiment éprouvez-vous?
Je suis fier parce que ça sera merveilleux aussi. C'est sensationnel parce que regardez, quand on montait dans un avion il y a 35 ou 40 ans, tout le monde avait peur. Maintenant, c'est de la rigolade, un avion.
Oui, les Français de 1957 étaient un peu sceptiques 10 ans après la guerre. Ils n'avaient pas eu le sentiment que la technologie avait évolué aussi vite et que désormais, une nation était capable d'avoir des engins susceptibles de battre la force de gravité terrestre. Côté soviétique, le nouveau maître, Nikita Khrouchtchev, le successeur de Staline, rend visite à Sergueï Korolev et félicite son équipe. C'est une victoire, mais une victoire qui est annoncé sans triomphalisme. Il faudra quelque temps avant que les propagandistes s'emparent de la nouvelle pour essayer de montrer que la grande nation de la paix que prétend être l'Union soviétique dispose désormais d'une force qui lui permet de faire pencher l'équilibre de la terreur en sa faveur. Côté américain, l'impact est violemment ressenti. L'administration Eisenhower avait hésité à investir massivement dans l'espace. Et pourtant, elle se rend compte aujourd'hui de la capacité d'entraînement que ce terrain peut avoir, non seulement sur le plan militaire, mais encore sur le plan du travail des opinions. Eisenhower va donc pousser ses troupes à essayer d'apporter une réplique. Il a le choix entre deux programmes. D'un côté, un programme pour lancer le premier satellite, Vanguard, soutenu notamment par la marine. Et puis de l'autre côté, un programme soutenu par l'équipe de von Braun, qui est intitulé Orbiter. Le président tergiverse peu, il tranche en faveur de Vanguard. Et donc, on va essayer d'envoyer le premier satellite, mais le lanceur échoue et dès le décollage, la fusée s'écrase, lâchant son satellite à peine à quelques kilomètres dans la forêt voisine. Les Russes s'amusent de cet échec. La presse anglo-saxonne trouvera même le nom de Flopnik pour baptiser la tentative américaine. Il faut donc repartir à zéro. Eisenhower se tourne maintenant vers l'équipe de Wernher von Braun. À eux de jouer, à eux de trouver le nouveau lanceur et le site d'où ils réussiront à faire enfin décoller l'Amérique vers l'espace. Après des mois de travail acharné, le 31 janvier 1958, à Cap Canaveral, une fusée Jupiter C décolle. Et elle réussit à mettre en orbite un satellite de 14 kg, Explorer 1. Désormais, avec cette innovation, les Américains pourront évaluer la présence de radiation autour de la Terre et ce sera une découverte majeure. L'Amérique a provisoirement sauvé la face. Mais déjà à Baïkonour, les hommes de Korolev ont un coup d'avance. Ils sont en train de réfléchir au premier vol habité. Comment manifester mieux une telle réussite qu'en envoyant dans l'espace un être vivant? Ce sera une petite chienne. Son nom, Laika. Tout a été prévu pour le lancement, sauf une chose. Une chose qui fait pleurer tous les enfants du monde à cette époque. Laika part, mais on n'a pas prévu de voyage de retour. Elle sera le premier animal à mourir dans l'espace. Mais à l'époque, on célèbre la performance. L'engin soviétique a réussi à envoyer le premier être vivant dans l'espace. On imprimera des timbres en l'honneur de cet animal disparu et on lui élèvera des mausolées, y compris en France, dans la banlieue parisienne. Mais les soviétiques vont aller encore plus loin. Encore plus loin le 12 avril 1961, quand ils envoient le premier homme dans l'espace.
Et maintenant, écoutez Youri Gagarin, il parle à la Terre depuis le Vostok. Écoutez sa voix. Je vois la Terre, la visibilité est bonne, je vous entends parfaitement, le vol se poursuit normalement. Je vois la Terre, on peut tout voir, certains points du ciel sont couverts de cumulus. Le vol continue, tout fonctionne parfaitement, nous continuons, je me sens bien, le moral est bon. Je poursuis le vol, tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Le commandant Youri Gagarin est revenu sain et sauf sur la Terre. Le premier vol humain dans l'espace cosmique s'est déroulé avec un complet succès.
C'était sur Europe 1 et les auditeurs avaient l'impression de vivre presque en direct l'événement qui venait de se dérouler le 12 avril 1961. Pour les États-Unis, c'est un coup dur. Le premier homme dans l'espace sera, de toute éternité, un soviétique et il s'appellera Youri Gagarin. Les Américains enragent d'autant plus qu'ils étaient sur le point de lancer la même expérience avec un astronaute, Alan Shepard, qui décolle, tenez-vous bien, seulement 23 jours après Gagarin. Mais la fusée n'est pas assez puissante et après un court vol de 15 minutes, Shepard rentre dans l'atmosphère et revient sur Terre. C'est une humiliation, si bien que le mot russe de cosmonaute marche beaucoup plus fort dans la propagande que celui que les Américains avaient imaginé d'astronaute. Il va donc falloir trouver les moyens de refaire le retard par rapport à ces soviétiques, à ces hommes de Korolev qui continuent de faire la course en tête. Il faut un effort massif. C'est dans cette optique qu'en juillet 1958 a été posée une décision extrêmement importante pour l'avenir. C'est la création d'une nouvelle agence fédérale, la NASA. NASA comme National Aeronautics and Space Administration. C'est donc la création d'une administration pour l'aéronautique, bien sûr, mais vous l'avez noté, pour l'espace. Son rôle est donc prioritairement d'obtenir que les Américains refassent leur retard sur les Soviétiques. Et dans cette administration, Wernher von Braun occupe une place centrale. Il va coordonner différents programmes, dont le plus important qui est lancé à ce moment-là, le programme Mercury. L'objectif est simple, réussir à placer un homme en orbite autour de la Terre, vérifier les effets de la pesanteur sur l'organisme humain et aussi trouver un système de récupération fiable qui permette de garantir la vie des équipages pour les futurs vols spatiaux habités. Effet de la coordination améliorée, de la centralisation des efforts, cette fois pour les Américains, le succès est au rendez-vous. 6 vols spatiaux arrivés ont lieu entre 1959 et 1963 et 19 vols sans astronautes sont aussi des succès. Les fusées de plus en plus puissantes sont mises en œuvre, d'abord les fusées du programme Mercury, puis ensuite les fusées Atlas qui vont prendre leur succession et évidemment les habitacles à leur tour sont améliorés et gavés de technologie. Au fond, derrière la NASA, c'est toute l'industrie américaine qui s'est mobilisée pour essayer de parvenir à égalité avec le concurrent soviétique. les deux superpuissances se rendent coup pour coup dans cette course spatiale et dans cette course de propagande. Car il faut bien le dire, le monde est médusé par les succès qui s'enchaînent de part et d'autre du rideau de fer. Mais ce sont les Américains qui vont avoir l'idée la plus folle, exprimée par leur président le 12 septembre 1962 dans un discours face au Congrès. L'homme qui parle s'appelle John Fitzgerald Kennedy.
Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et d'accomplir d'autres choses. Non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Parce que cet objectif servira à organiser, à mesurer le meilleur de nos forces et de nos compétences. Parce que c'est un défi que nous voulons relever, un défi que nous ne voulons pas ajourner, et un défi que nous voulons gagner ainsi que les autres.
Quel fantastique coup de bluff! Alors qu'ils sont à peine revenus à égalité, les Américains donnent un horizon qui est celui de la victoire et du passage loin devant l'Union soviétique en termes d'efforts et de course spatiale. Le mot est entendu partout, mais en attendant, au lieu d'aller sur la Lune, les Soviétiques, eux, continuent de mener leur programme fiable et stable de propagande à l'égard du monde. Un exemple. En 1963, ils vont lancer un grand concours populaire. Tout le monde peut s'inscrire pour sélectionner la première femme qui ira dans l'espace. Elle décollera et s'appellera Valentina Tereshkova. Grand succès. Cela veut dire que l'Union soviétique, patrie du peuple, donne sa chance à chacun. En 1965, à nouveau, les Soviétiques envoient un cosmonaute dans l'espace, mais il sort même à l'extérieur de sa capsule. Ce sera le premier piéton de l'espace, Alexis Leonov. Ces succès, les Soviétiques les doivent à Korolev. Mais cette même année 1965, justement, fatigué par ses années de goulag, par les efforts intempestifs qu'il a dû mener pour réussir le programme spatial, Korolev meurt au cours d'une opération cardiaque. Bien sûr, les disciples de Korolev continueront à faire illusion et l'année suivante, la sonde Luna 9 sera le premier objet à atteindre la Lune et à s'y poser. Mais en réalité, Wernher von Braun a gagné sa victoire par défaut. Le programme Apollo, dans lequel les fusées qu'il a conçues vont jouer un rôle clé, les fusées Saturn V, va progressivement réussir à envoyer des hommes de plus en plus loin dans l'espace et à obtenir finalement avec Apollo 11 la consécration. Le 21 juillet 1969, Armstrong, Aldrin et Collins atteignent la Lune. Armstrong s'apprête à descendre. L'événement, bien sûr, est celui de la course spatiale, mais c'est le plus grand événement de propagande de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il est retransmis en direct à la télévision aux États-Unis et ailleurs. Les téléspectateurs du monde entier ont l'esprit et le regard tournés vers la Lune. Et les auditeurs de la radio aussi. Car à ce moment, Europe 1 retransmet les mots de Neil Armstrong. Écoutez.
Maintenant, la cabine est ouverte. Ok, Houston, je suis sur le seuil.
Ok, Neil. Ça y est, on a une image sur la télé. Ok, Neil, on voit descendre l'échelle maintenant.
Je suis sur le bas de l'échelle, à un pas du sol maintenant. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité.
Il était 3h56 du matin à Paris et quelques auditeurs devaient être médusés par ce qu'ils entendaient. Un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité, la phrase est rentrée dans les classiques et elle appartient un peu à l'humanité tout entière. Car derrière la course spatiale, en réalité, ce qui s'est joué d'une façon unique, c'est l'idée que chacune des grandes puissances avait une portée universelle. Ce qui frappe avec cette nouvelle bataille spatiale qui s'engage aujourd'hui, bataille d'images et bataille technique, c'est que naguère, chacun prétendait défendre les intérêts de l'humanité tout entière, alors qu'aujourd'hui, les Américains comme les Chinois prétendent relancer la course spatiale à leur seul bénéfice, bénéfice militaire, mais aussi, on l'aura compris avec les informations venues de la Lune, bénéfice économique, avec notamment la perspective de pouvoir exploiter un jour, ce nouveau continent spatial. Ce podcast est terminé, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin sur cette année 1969, il existe un autre podcast d'Europe 1 Studio intitulé 3h56 et il nous ramène à cet exploit extraordinaire qu'ont été les premiers pas sur la Lune. On peut se retrouver évidemment sur toutes les plateformes ainsi que sur le site d'Europe 1 et sur les réseaux sociaux avec en particulier la page Facebook de l'émission. Je vous y retrouve, j'attends vos idées et à très vite.
Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.